de critique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 2 juillet 93.
La dernière fois, nous avons essayé, d'un point de vue critique, voir l'induction de la fin de ce qui est en tant qu'il est, c'est-à-dire la découverte de l'être en acte. Découvrir ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Ce qui donne à l'être sa signification plénière. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est encore l'interrogation du TST. Qu'est-ce que c'est que l'être? Faut pas l'oublier. Il y a deux grandes interrogations. Et là, on le voit bien, et au point de vue critique, c'est important. Il y a deux grandes interrogations du TST. Qu'est-ce que c'est? Selon la forme, selon la fin. Le point de vue de la causalité efficiente, ce n'est pas directement une interrogation du TSTI. C'est une interrogation de l'origine. Et donc, qui ne se prend que pour ce qui devient. Or, le devenir de l'être, échappe à la critique. Venir dans l'être, ce que l'être est. Le devenir est autre que l'être. Et ça aussi, point de vue peut-être critique, il faut justifier que de fait, il n'y a pas d'induction au niveau génétique par rapport à l'être. Vous ne pouvez pas critiquement saisir la création. Vous n'avez pas d'induction de la causalité efficiente au niveau de l'être. Vous n'avez pas d'induction de la causalité selon la matière du point de vue de l'être. Là, ça c'est aussi très intéressant au point de vue critique. Voir que pratiquement il n'y a que deux inductions du TST au point de vue de l'être. Ce qui montre que la structure de l'intelligence, séparée, l'intelligence comme intelligence, n'est pas du tout de rechercher le devenir. L'aspect génétique. L'aspect génétique est toujours du côté du devenir. Et l'aspect matériel, c'est le fondement de l'aspect génétique. L'aspect génétique implique une potentialité radicale, une matière, d'où viennent les choses. La structure de l'être, c'est forme et fin. Et d'une certaine manière, la finalité, la fin, ne donne pas la structure, mais donne le dépassement, si j'ose dire. Il n'y a pas de dépassement dans l'être, mais ce qu'il y a d'ultime dans l'être. Ce qui fait bien comprendre que l'induction de l'être en acte demeure une interrogation du TST, eh bien l'induction ultime et dernière de la vie de l'intelligence. L'intelligence qu'a-t-elle atteint, l'être en acte, atteint ce qu'il y a d'ultime. Et c'est toujours l'être, c'est pas Dieu. Dieu est atteint comme une réalité et pas comme un principe propre. Dieu ne peut pas être un principe propre. Et là, la confusion que des quantités ont fait entre l'être en acte et Dieu. Comme si Aristote, cherchant l'être en acte, cherchait ce que c'était que Dieu. L'être en acte est saisi inductivement à partir même de ce qui est du jugement d'existence. C'est le jugement d'existence implique le point de vue de l'acte. Alors, pouvons-nous, au point de vue critique, après cette induction de l'être en acte, nous a montré la voie d'accès à l'être en acte, nous pouvons, au point de vue critique, tout de suite expliciter comment cette découverte de l'être en acte nous met en présence du principe ultime de toute ma vie intellectuelle. Comprendre la différence qui existe entre l'être en puissance et l'être en acte. Et comprendre que cette différence fait que l'être en puissance est tout entier dépendant de l'être en acte. Au point de vue de l'intelligibilité. Au point de vue de l'intelligibilité, il y a une dépendance radicale entre les deux. L'être en acte, l'être en puissance n'est intelligible que par l'être en acte. Et vous pouvez là découvrir le principe selon la fin de toute ma vie intellectuelle. Tout ce qui est en puissance n'est intelligible que par l'acte. Et ça, je crois que c'est capital de comprendre ça pour, j'allais dire, l'hygiène de mon intelligence. Ça fait comprendre que si ce principe de finalité n'est pas saisi, n'est pas découvert, mon intelligence demeurera toujours dans le brouillard. C'est vraiment la découverte de l'être en puissance totalement relatif à l'être en acte, qui donne l'ultime clarté sur l'être, l'ultime évidence sur l'être. Et ça, c'est très important. Je peux me poser la question maintenant. Puisque en métaphysique, nous avons vu les cinq modalités de l'être en acte, comprendre que représente ce passage de la découverte de l'être en acte distinct de l'être en puissance et ses diverses modalités. Est-ce que ces cinq inductions différentes Ou est-ce que c'est la même induction qui, de fait, implique ces cinq modalités? Il y a un problème critique, là. Puisque la critique doit permettre de justifier toute ma métaphysique. Vous vous souvenez, tu vois, ceux qui l'ont fait se souviennent, ceux qui l'ont pas fait présument qu'il y a cinq modalités d'être en acte. Il faudrait qu'au point de vue critique, on puisse montrer qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Ça, c'est important au point de vue critique. Comme toujours, la critique donne une ultime, vous voyez, une ultime certitude. Du côté de la certitude, la critique. C'est pas tellement de la vérité, c'est la certitude. J'écarte toutes les autres possibilités. Donc il n'y a plus de flottement. Les choses sont nettes. C'est pour ça que la critique séduit toujours. Elle donne une très grande séduction. Alors, comment se fait ce passage de l'être en acte? Distinct de l'être en puissance. Laissez. Donc, je l'ai déjà dit. Très important pour nous de bien comprendre cela. Ce que notre cher Gilson, du haut du ciel, comprend maintenant, mais ne comprenait pas sur la terre, et qui faisait une confusion. Une confusion qui a été répétée par tous ceux qui suivaient Gilson. Et ils sont très nombreux parmi les topistes. Ce sera intéressant d'en faire l'inventaire. Poser la question par rapport à Favreau. Quelqu'un étudie ça de très près pour voir si chez Favreau la distinction est faite. Et Gilson prétend que... Alors ça, c'est une question critique, vous voyez. On la voit en métaphysique rapidement, mais en réalité, c'est en critique qu'on doit le faire. On doit faire en critique cette distinction entre l'être en acte et l'essai. Et l'essai se distingue de l'essence. Et il faut donc voir cette fameuse distinction de l'essence et de l'existence. Et comprendre cela en critique. Comment se fait ce passage? Puis nous avons vu le point de vue de la vérité. Puis le point de vue de la bonté, puis le point de vue des opérations vitales, puis le point de vue du mouvement. Comment comprendre ces cinq modalités de l'être en acte? Et nous poser la question, peut-il y en avoir d'autres? Je crois que ça, c'est capital pour comprendre la structure de la philosophie au plan de l'intelligence. Tout est là. Et si ceci est authentique, si ceci est vrai, on comprend par le fait même qu'on va se servir de cette structure-là pour le dernier effort de l'intelligence. Découvrir l'existence d'un être premier. Et là, il y a le point de vue critique doit réfléchir sur ces cinq modalités de l'acte. Et se poser la question, est-ce que ces cinq modalités sont commandées par cinq modalités de l'induction ou n'y a-t-il qu'une seule induction qui se divise en cinq? C'est un problème critique difficile. Je crois qu'il n'a jamais été traité au plan critique. Dans le thomisme, déjà dans le thomisme, ces cinq modalités de l'acte, vous ne les voyez pas. Dans la métaphysique, dans la philosophie première, scolastique, on ne le fait pas du tout. Alors que je crois que c'est très important. Et parce que, de fait, c'est très important, il est donc nécessaire de réfléchir sur l'apparition. C'est tout ce que fait la critique, hein. L'apparition de cinq modalités, d'où ça sort? Est-ce que vous voulez répéter comme ça, parce que ça, ça doit être comme ça? Ou est-ce que, de fait, je suis obligé de les poser? Mais ça, c'est une colle merveilleuse d'examen. Vous sécheriez tous. J'en suis sûr. Parce que c'est pas comme un du tout, point de vue critique. Or, c'est quand même très important de saisir ça. Alors, quand je saisis, ici je suis en face, donc, d'un principe selon la fin de ce qui est. C'est le principe. Ce principe est cause. Passage du principe à la cause. On l'a déjà vu pour la question de la substance. Et au point de vue critique, c'est très important parce que tout principe n'est pas cause et toute cause est principe. Le principe, c'est le premier dans l'ordre de l'intelligibilité et la cause, c'est le premier dans l'ordre de l'être. L'induction me fait découvrir en premier lieu un premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais ce premier dans l'ordre de l'intelligibilité est aussi, ou peut-être, un premier dans l'ordre de la cause. Quand je suis en face d'une induction en philosophie première, je pars de l'exister. Donc le premier que je saisis est cause. Puisque c'est un premier aussi dans l'ordre de l'exister. S'il est premier dans l'ordre de l'exister, les autres dépendent de lui. Donc il y a ceci de tout à fait particulier dans l'induction de la philosophie première. Poser la question, y a-t-il un axiome de la finalité? Nous sommes en face d'un principe qui est une causalité. Y a-t-il un axiome de la finalité? L'axiome, c'est séparer l'intelligibilité de la causalité. Un axiome formalise le principe et le couple de la finalité, de la causalité. Quand je dis tout ce qui est mu par un autre, je vous ai dit c'est un axiome, c'est pas un principe. Et on en a fait un principe dans la scolastique. Alors on n'y comprend rien. Point de vue intelligibilité, il est évident que ce qui est mu en tant qu'il est mu est en puissance, donc il ne peut être mu que par un autre puisqu'il est en puissance. De la puissance ne sort pas l'acte, de sorte que cet axiome est très intelligible. Tout ce qui est mu est par un autre. Voyez tout ce que le père Dubarne a écrit là-dessus dans la revue de philosophie, il y a une trentaine d'années, pour montrer que ce principe était inaccessible, était inacceptable au niveau scientifique. Et si j'en fais un axiome, c'est tout à fait différent. Si j'en fais une intelligibilité au niveau philosophique, tout ce qui est mu comme tel est en puissance. Comme on ne pouvait pas être mu. Donc, il est mu par un autre. C'est tout. Je ne vois que ce point de vue-là. Est-ce que je peux, au plan de la finalité, séparer le principe de la causalité? Oui. C'est peut-être l'erreur de Don Scott. Alors, de dire que la causalité finale est métaphorique. Dire que la causalité finale est métaphorique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le principe de finalité est un axiome. Il me semble bien. Et que si j'en fais une causalité, c'est une causalité métaphorique. C'est-à-dire qu'au fond, ce principe est dans l'ordre de l'intelligibilité pure et n'est pas réel. Vous voyez comme c'est grave comme conséquence. Parce que s'il est métaphorique, ça prouve que c'est mon imagination qui projette. C'est une causalité exemplaire. J'identifie causalité exemplaire et causalité finale. Et donc, je ne touche plus le réel. Ce qui était métaphorique ne touche plus le réel, c'est une projection de l'esprit. Le lac rit, c'est une métaphore. C'est mon esprit qui fait ça. Je fais une relation à l'égard d'un effet, d'un visage humain, et par rapport au lac. Le lac ne fait que réfléchir le visage humain. Il n'est pas le visage humain. Donc quand je dis le lac rit, c'est métaphorique. Ce qui ne rit pas du tout. Mais il semble rire. Je vais derrière cette relation. Donc quand je dis que la causalité finale est métaphorique, je veux dire qu'en réalité, la causalité finale me donne l'impression d'une causalité, mais que ce n'est que l'impression, que ce n'est pas réel, et que la causalité finale demeure uniquement dans l'intentionnalité. C'est-à-dire que l'être en acte est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, mais uniquement dans l'ordre de l'intelligibilité. Pour que la causalité finale puisse exister réellement, il faut l'apport de la causalité efficiente. Et c'est par la causalité efficiente que la causalité finale existe. C'est ça le point de vue de Don Scott, qui fait qu'à ce moment-là, je transforme le principe de la finalité en axiome. Tout ce qui est en puissance est ordonné à ce qui est en acte. Mais ce n'est pas le réel que je touche, c'est l'intelligibilité. Passer de l'intelligibilité au réel, c'est donc de l'ontologisme. Il y a là un problème extrêmement délicat et important. Je dis l'inverse de Don Scott, avec tout le respect qu'on lui doit. Donc, on lui envoyait un grand coup de chapeau, tu vois. Du haut du ciel, il doit sourire. Tu vois, que le point de vue de ce principe de la finalité implique une causalité. Et que je parce que c'est une causalité qui s'exerce par l'amour, par l'attraction. Donc c'est une causalité par rapport à l'intelligence. La causalité finale, le principe de la primauté de l'acte sur la puissance ne devient cause que pour l'esprit. Seul l'esprit est attiré par le bien, parce qu'il est capable de le connaître. Et en connaissant le bien, il est attiré par le bien. Et l'attraction que le bien exerce sur ma volonté est une véritable causalité. Et pas seulement de l'ordre de l'intentionnalité. C'est ça qui est délicat à saisir, mais qui est capital. Il est sûr que dans mon acte humain, l'attraction du bien exercée sur moi va se traduire par un vécu intentionnel. Mais ce vécu intentionnel présuppose une attraction réelle. Vous voyez, quand en éthique, on passe du premier amour à l'intention, l'intention de vie. L'intention de vie est intentionnelle. Mais cette intention de vie présuppose l'amour. Il n'y aurait pas d'intention à l'égard de la fin s'il n'y avait pas un premier amour à l'égard de cette fin qui est mon bien. Et le bien exerce sur moi une attraction réelle, spirituelle, qui se traduit dans une intentionnalité. Mais c'est le passage du premier amour à l'intention. L'intention, ben oui, c'est intentionnel, c'est évident. Il organise de façon intentionnelle. Et cette intention s'appuie et se fonde sur un premier amour qui, lui, est réel. Il est spirituel. Il n'est pas substantiel, mais il est réel. C'est pas une substance. Mon amour n'est pas une nouvelle substance. Mais il est réel. Il m'attire. Être attiré par le bien, c'est quelque chose de réel. L'amour que je porte en moi à l'égard du bien est quelque chose de réel. Vous allez me dire, mais l'intentionnel, il y a aussi quelque chose de réel. C'est très vrai. Mais l'intentionnel formalise ce premier réel et montre que ce réel n'est pas substantiel. Qu'il demande d'être progressivement transformé. Vous voyez comme c'est délicat. La confusion entre l'amour et l'intentionnalité. Puis-je dire que l'amour spirituel est purement intentionnel? Point critique. Puis-je dire que l'amour spirituel que j'ai à l'égard du bien est purement intentionnel? Je dis non. Quand je dis qu'il est intentionnel, je le formalise. Je dis que cet amour implique un ordre. Et cet ordre est intentionnel. Mais le lien que j'ai entre ma volonté et le bien est plus qu'intentionnel. Il est réel. Et il demande de devenir un réel efficace. Une union effective et pas seulement affective ou pas seulement intentionnelle. L'union affective que réalise l'amour est plus que quelque chose d'intentionnel. C'est un intentionnel affectif et non pas seulement un intentionnel de l'intelligence. Alors c'est là où il faut comprendre que l'intentionnel affectif touche quelque chose d'existentiel. Et c'est ce que Don Scott n'a pas vu. Très délicat, vous voyez, ce passage du principe à la causalité. Causalité finale, selon la fin. Ce qui me permet de dire que tout ce qui est en puissance est attiré vers ce qui est en acte. Et que ce qui est en acte joue le rôle de fin à l'égard de cette en puissance. Joue le rôle de bien à l'égard de cette puissance. Et donc attire. Et ce qui est attiré vers le bien, entre ce qui est attiré et le bien, il y a un lien réel, spirituel, qui ne pourra se comprendre parfaitement que dans un ordre de sagesse. C'est pour ça que la causalité finale ne peut se comprendre parfaitement et se légitimer parfaitement que dans un ordre de sagesse. Nous le verrons. En poussant la critique jusqu'au bout. Et donc il y a là un passage très délicat au plan critique et qui est, je crois, très important.
Mais si on découvre véritablement l'être en acte comme cause à travers les modalités du vrai et du bien, est-ce que cependant les modalités de l'essai, de l'opération vitale, sont déjà un dépassement de l'explication par l'efficience? Vouloir tout réduire à la causalité efficience, on a déjà un dépassement en essai dans l'opération vitale.
Il y a un dépassement de la causalité efficiente.
On ne découvre pas les plans comme cause finale, mais on est déjà quelque chose qui n'est pas explicable par la...
C'est-à-dire, vous voyez, on le découvre comme principe. L'induction conduit à un principe, un premier. Ce premier est l'être en acte. Cet être en acte n'est pas séparé de l'exister. Il implique l'exister. Et parce qu'il implique l'exister, la dépendance de ce qui est en puissance vis-à-vis de ce qui est en acte n'est pas seulement un axiome. Mais c'est une cause. Une cause très subtile dont la modalité pour moi ne sera manifestée que grâce à la causalité efficiente ou à la causalité formelle. Mais c'est le caractère très particulier de la causalité finale. C'est qu'elle est première parmi les autres causes. Elle finalise toutes les autres causes. Mais en elle-même, elle se tient par elle-même. Elle n'a pas besoin des autres causes pour exister. Mais elle se manifeste grâce aux autres causes. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Mais elle se tient en elle-même. Il y a une véritable causalité finale. Les causes des causes. Et c'est très délicat de la justifier, vous voyez. Parce que qui dit principe ne dit pas nécessairement cause. Mais qui dit tel principe dit cause. Le principe qui est premier dans l'ordre de l'être dit cause. l'ordre de l'être. Puisque ce qui est premier dans l'ordre de l'être ne peut pas s'abstraire de l'exister. Peut-être ça qui vous permet de le comprendre plus immédiatement. Je ne peux pas formaliser. Et pensez toujours blanc et blancheur. Hein. La blancheur reste uniquement au niveau causalité exemplaire. C'est pas une cause la blancheur, parce que ça n'existe pas. Pour être cause, il faut exister. Le blanc du mur existe. Il existe grâce au mur. Si vous coupez blanc du mur, vous avez la forme blancheur. Et la forme blancheur n'existe pas par elle-même. Donc, ça reste causalité exemplaire. Est-ce que je peux dire, quand j'induis l'acte, je saisis l'être en acte. Et l'être en acte implique-t-il l'exister ? L'être en acte implique l'exister. Parce que je ne peux pas formaliser l'être, c'est-à-dire le séparer de l'exister. Je pars d'un jugement d'existence. Donc l'être en acte implique l'exister. Ce qui fait comprendre que l'être en acte est bien premier, et ce premier est cause. Et c'est subtil tout ça. Et c'est très important. Dès qu'on est en face de quelque chose de subtil, ça doit être toujours très important. Parce que les choses subtiles disparaissent très vite. Et cet être en acte cause que Thomas d'Aquin découvre à la suite d'Aristote. Tout de suite après lui, Don Scott, on le rêve. Causalité métaphorique. Comme pour Aristote, immédiatement après Aristote, les stoïciens l'ont biffé. C'est la causalité efficiente qui domine chez les stoïciens. C'est pas la causalité finale. Et on voit que dans le thomisme, ça a été la même chose. Dans le thomisme, avec Suarez, la causalité finale a disparu en faveur de la causalité exemplaire et de la causalité efficiente, mais surtout de la causalité efficiente. Et c'est pour ça qu'on a prétendu qu'on ne pouvait atteindre l'exister de l'être premier que par l'efficience. Parce que seule l'efficience nous donnait l'exister en acte. Alors il faut arriver à redécouvrir dans l'être en acte, l'exister en acte. C'est pour cela qu'il est nécessaire de voir à partir de l'être en acte les cinq modalités de l'acte. La première modalité de l'acte est dans l'essai. Donc je passe de l'implicite à l'explicite en voyant que l'être en acte, dans sa première explicitation, c'est l'essai. Donc, si l'être en acte, qui montre la primauté de l'être en acte sur l'être en substance, sur l'être en puissance, n'est pas cause, je ne pourrai pas passer de l'être en acte à l'essai. Point de vue critique. Il faut que l'être en acte implique en acte l'essai pour que la première modalité de l'être en acte soit l'essai. C'est pour ça que c'est si important. Et c'est pas commode. Mais prenez toujours, parce que pour notre esprit, on a besoin toujours d'une comparaison. Donc prenez toujours blancheur. pouvez pas dire que la première modalité de la blancheur, c'est la blancheur qui existe. Cherchez la blancheur qui existe. Cherchez Miss Idéal. Ça n'existe pas. Cherchez la blancheur. Le blanc à l'état pur. Ça n'existe pas. Parce que le blanc existera toujours dans une matière. Et c'est pour ça que vous aurez des infinies, des manières très différentes de voir le blanc. Tandis que l'être en acte, parce que je suis au niveau de l'être, l'être en acte implique en acte l'exister. Donc je peux mettre en lumière l'être en acte en disant première modalité de l'être en acte, l'essai. Et je comprends comment saint Thomas dira l'essai actus essendi. Essendi. Regarde l'essence actus, regarde l'être en acte. Très curieux de définir l'essai actus et sandi, l'acte de ce qui est capable d'exister. Oui. Une fois qu'on a compris ça, on voit bien que l'être en acte est plus pur, métaphysiquement parlant, que l'essai. Et donc je ne peux pas identifier essayer et être en acte. Si j'identifie essayer et être en acte, je ne saisis plus l'être en acte. Je saisis dès l'être en acte, l'être en acte de la substance, de l'essence, dès l'être en acte, et pas l'être en acte, à l'état pur. Exercice-là, hein. Merveilleux de l'intelligence. Je vous dis, des esprits aussi intelligents que Gilson, que le père Geiger, que des quantités de thomistes, maritains, sont tombés dans le panneau. Et on dit, l'essai pour saint Thomas, c'est l'être en acte. Demande à saint Thomas qu'est-ce que c'est que l'essai, ils disent actus essendi, le blanc du mur, l'acte de essendi, essendi c'est le mur, c'est pas l'acte tout pur, c'est l'acte de ce qui est capable d'exister. Si saint Thomas avait identifié essai et acte, on leur a demandé qu'est-ce que c'est que l'essai ? L'acte. Que l'essai joue le rôle de l'acte, tout à fait d'accord. Et pour Essendi, monsieur Essendi, et monsieur Essendi, c'est un monsieur substantiel. C'est quelque chose d'assez lourd dans l'être. Et Sandy, ce qui est capable d'exister. Bon, réfléchissez pendant toutes les vacances là-dessus.